Ben, ça a l'air que c'est la classe de Galates. Alors, bonjour à tout le monde. Galates, chapitre 2, verset 11. C'est là qu'on est rendu. Ce matin, on va couvrir les versets 11 à 21. Galates 2, 11 à 21. Si on peut donner un titre à ce passage-là, quoique c'est très, très centré dans Galates aussi, on peut appeler ça la justification par la foi seule. Et Paul en fait un point très, très fort de parler de la justification. Alors, juste un petit entrée en matière. Toute l'humanité, OK, a un sentiment de culpabilité à cause du péché. Sauf qu'elle ne le sait pas. Ne sachant pas qu'elle a un sentiment de culpabilité à cause du péché, elle recherche toutes sortes de solutions, toutes sortes d'échappatoires, dans toutes sortes de psychanalyses, de relations d'aide humaine, de pensées positives, de confiance en soi, de complaisance envers soi, sexe, alcool, drogue, toutes les échappatoires qu'on peut trouver, incluant même le travail, pour fuir la culpabilité du péché que nous avons en nous. Est-ce que l'humanité sait qu'elle est coupable du péché? La réponse est
non,
définitivement pas. D'ailleurs, quand au 21e siècle, en 2016 aujourd'hui, lorsqu'on dit qu'on parle de péché, qu'est-ce qu'on nous dit? Il n'y a plus de péché. On est arriéré, hein? On va trouver toutes sortes d'excuses, mais aujourd'hui, tout est correct. Tout est bien. Pour les plus âgés, là, si on retourne, ceux qui sont capables de retourner une cinquantaine d'années en arrière, on emprisonnait pour des choses qui sont correctes. On mettait à mort pour des choses qu'on défend aujourd'hui dans notre société nord-américaine. Donc, le péché, on est scandalisé quand on lit l'histoire de Sodome et Gomorre, quand Lot, OK, est prêt à donner ses filles pour protéger les invités qu'il y a chez lui, là. Et quand ils veulent connaître les invités de Lot, ils veulent pas les connaître parce qu'ils veulent connaître s'ils s'appellent Dominique ou Richard. Ils veulent les connaître sexuellement. C'est ça le mot qui est marqué là. Et lui est prêt de donner ses filles, vous ferez avec elles ce qu'il vous semblera bon, ce que vous voudrez. Le péché était pourri là. Y a-t-il une grosse différence avec Montréal aujourd'hui? Pas tellement. Il n'y a pas tellement de différence. C'est de plus en plus courant de regarder à la télévision des couples homosexuels ouvertement mariés et qui sont prêts à payer pour faire porter des enfants par d'autres femmes en dehors du Canada, parce que c'est pas encore légal ici. Si je dis c'est pas encore légal, ça va le devenir, je vous en passe un papier. Donc la culpabilité, le péché, et tout ça, ça remonte à Sodome et Gomorre. Mais en Israël, c'était pas mieux. Le péché était là aussi, et même si Dieu avait pourvu une ombre du sacrifice de Jésus en permettant que des animaux soient sacrifiés afin que le péché soit pas effacé, mais afin que Dieu calme sa colère en attendant que Christ vienne payer vraiment le prix du péché, les Juifs, eux, le peuple d'Israël, a ajouté, parce que c'était pas suffisant ce que Dieu avait donné à Moïse. Il fallait ajouter tous les rythmes, les rituels, les traditions. Et quand on lit dans le Nouveau Testament ce que pratiquent les pharisiens, ce n'est pas la loi qu'ils pratiquent. Je dis pas qu'ils ne pratiquaient pas la loi, mais c'est toutes les traditions qui vont avec. Et au lieu de s'attacher à la foi qui va avec la loi, il s'attachait à la lettre de la loi et des traditions plutôt que la foi qui va avec la loi. Pensons à la religion chrétienne, OK, le christianisme. Qu'est-ce qui est arrivé avec le christianisme depuis le début? Là, on est dans Galates, on est dans le premier siècle du christianisme. Qu'est-ce qui est arrivé avec le christianisme au travers des années? Il a été déformé. Est-ce qu'il a été déformé ou est-ce qu'on a ajouté? On a transformé, on a ajouté par-dessus la Bible. Parce que vous parlez à un curé, à un prêtre catholique, ils vont vous dire qu'ils croient à tout ce qui est écrit dans la Bible. Mais il y a telle bulle, il y a tel concile, il y a telle tradition qui ont été ajoutées par-dessus, qui fait qu'aujourd'hui, on ne vit plus ce qui est écrit dans la parole de Dieu. On vit la tradition de Vatican I, de Vatican II, de concile un tel, de concile un tel, de tel pape et de tel pape. Comprenez ce que je veux dire? Il y a beaucoup de rapprochements avec Israël par rapport à la loi, tout ça. Est-ce que nous sommes à l'abri de tout ce qui peut être rajouté dans la marche d'un chrétien? On n'est pas à l'abri. Intéressant de voir aussi que toutes ces choses qui sont rajoutées sont généralement des œuvres à faire, des choses à faire afin de gagner quelque chose de plus. Ce qui a choqué les réformateurs, Luther et Calvin et compagnie, là, c'était qu'à un moment donné, la coupe était tellement pleine de tout ce qui était ajouté. Entre autres, on pouvait acheter des indulgences. Et qu'est-ce que c'est qu'une indulgence? Alors, on fait de l'histoire. Là. Ça nous fait passer moins de temps dans le purgatoire. OK? Pardon? Oui, le but principal, c'était ça. Mais selon eux, ça nous faisait passer moins de temps dans le purgatoire. Quand ils ont construit la basilique à Rome, ils avaient besoin d'argent. C'est là que c'est sorti les indulgences. Donc, c'est pour ramasser de l'argent pour construire Vatican. Hein, l'homme est tellement honnête. Deux, c'est pour passer moins de temps dans le purgatoire. Il n'y a pas de purgatoire. La parole de Dieu nulle part ne parle de purgatoire. Elle parle de la mort, de l'enfer ou de passer l'éternité avec Dieu. Il n'y a pas de purgatoire. Cette semaine, ou la semaine passée, puis j'avais une réunion, et puis on était assis autour d'une table avec les gars pour dîner, puis là, vous savez, on pose des questions des fois avec... Il y en a qui posent des questions à 100$, tu sais, là. Est-ce que les enfants vont au ciel ou en enfer? On ne débattra pas de ça ce matin, mais la parole de Dieu... La réponse est assez simple à donner, OK? J'en sais rien. Mais Dieu est juste, Dieu est amour, et Dieu ne condamnera pas l'injustement, c'est ça. Mais qu'est-ce que le catholicisme a apporté? Les limbes. Alors là, ils ont fait baptiser les enfants pour pas qu'ils aillent en enfer. Ils vont dans les limbes. Tout ça, c'est des choses qui sont ajoutées au-dessus de la parole de Dieu. Vous comprenez? Tout ce qu'on peut rajouter par-dessus la parole de Dieu, ça date pas seulement de la loi d'Israël, mais le catholicisme, le christianisme. Et si on ajoute aussi les regroupements évangéliques, on voit ça aussi. Et on peut juste parler des adventistes du septième jour qui observent une partie de la loi. Et tu dois le faire. Si tu ne le fais pas, ils disent pas tu vas en enfer. Mais t'es pas vraiment un chrétien. Quelqu'un qui est pas vraiment un chrétien, il va en enfer. Si on recule encore plus loin dans le temps, quand Caïn et Abel ont présenté leur offrande, Abel a obéi à ce que Dieu demandait. Caïn a décidé de faire une offrande de fruits. Est-ce que c'est mal? Qu'est-ce que c'est qui était mal? Pour que Dieu le rejette. Il n'a pas fait ce que Dieu avait demandé. On pourrait débattre de tout cela, là. Mais il a offert ses œuvres, le produit de son travail. C'est ça qui était rejeté, le produit de son travail. L'antagonisme. Quand vous comprenez l'antagonisme, c'est la lutte entre deux personnes. L'antagonisme entre la foi et les œuvres pour le salut. Donc, ça remonte loin. Même Israël a ajouté tout ça, puis on voit la piété des pharisiens, leur propre bonté, leur générosité, et qui est leurs bonnes œuvres afin d'être acceptés de Dieu. Et même Paul ne craint pas d'être identifié avec eux. J'étais comme eux. J'étais un pharisien. Né de telle famille, telle classe, telle ci, telle ça, le plus zélé des gens de ma génération, qu'il a dit, et il était comme eux. Est-ce qu'il a compris que ça ne lui donnerait rien? Comment l'a-t-il compris? Il a eu une révélation particulière, d'accord? Dieu lui a ouvert les yeux sur le chemin de Damas. Jésus-Christ s'est révélé lui-même à Paul, sur le chemin de Damas, parce qu'il était trop têtu, trop aveugle pour comprendre le message qu'il a entendu, ne serait-ce qu'au témoignage d'Étienne. Intéressant de voir comme quoi que ça prend une révélation particulière pour qu'on comprenne la foi. Est-ce que c'est seulement dans le cas de Paul que ça arrive? Non, ça arrive dans le cas de chacun, chaque enfant de Dieu. Dieu permet et se révèle à nous. Hein? Intéressant de voir, on peut partager l'évangile à quelqu'un pendant des années. Des années. Mon père a travaillé avec un camarade de travail pendant plus d'un an et il lui parlait en français. En France, on dit, Il tarabustait. Ça veut dire que tous les jours, avec l'Évangile, il dit la seule chose que je voulais faire, c'est qu'il torde le cou. J'avais rien compris. Il a lu tout le Nouveau Testament. Il a rien compris. Et à un moment donné, pouf, ses yeux sont ouverts. C'est la même chose que Paul. Okay? Paul a été aveugle après sa rencontre avec Jésus sur le chemin de Damas. Ses yeux sont ouverts. Dans un certain sens, c'est la même chose. OK. Alors, scribes, pharisiens, même chose. Paul, même chose. Ils prétendent suivre Christ. Et dans la situation où on est présentement, là, à Antioche, les judaïsants prétendent suivre Christ, mais veulent ramener la loi et les pratiques de la loi. S'ils ramenaient encore la loi, en elle-même, la loi n'est pas mauvaise. On est d'accord? En elle-même, la loi n'est pas mauvaise. La seule chose, qu'est-ce qu'elle montre, la loi? Qu'on est pécheur et qu'on n'est pas capable de la suivre. La plupart des gens, quand tu parles de péché, tu dis, mais moi, j'ai jamais tué, tu sais, j'ai jamais trompé mon mari, trompé ma femme, j'ai jamais volé, hein. Mais la parole de Dieu nous dit que, avec les yeux, t'es déjà adultère, avec les pensées du cœur, t'es déjà meurtrier, et avec tes paroles mensongères, tu as déjà volé. Donc, on est tous des pécheurs. C'est ça que la loi montre. La loi n'est pas mauvaise. Elle fait que montrer que nous sommes des pécheurs perdus pour l'éternité. Tournons ensemble dans le chapitre 2 de Galates, verset 11. Rappelons-nous ce que Célestin a fait la semaine passée, les dix versets précédents. Paul est allé à Jérusalem, OK? Il est allé parce que Dieu lui a dit d'y aller. C'est une révélation, verset 2. Et là, il a exposé en privé toutes sortes de choses qui se passaient. Il a emmené Tite avec lui. Qui était Tite? Un grec, donc un païen. Circoncis, non circoncis? Non circoncis, un vrai païen pour les Juifs. Et le verset 4 nous dit clairement ce qui se passe à Jérusalem à ce moment-là. Cependant, à cause des faux frères qui s'étaient furtivement introduits et glissés parmi nous pour épier la liberté que nous avons en Jésus-Christ avec l'intention de nous asservir, nous ne leur avons pas cédé un seul instant par soumission, afin que la vérité de l'Évangile soit maintenue parmi vous. La difficulté des judaïsants, qu'il appelle comment? Des faux frères, était à Jérusalem. Et c'est intéressant de voir, et il leur a résisté en face, et après, ils en ont parlé avec Jacques, Pierre, Jean, les colonnes de l'église de Jérusalem, et ils n'ont trouvé aucun motif valable pour faire circoncire les païens, et il leur a donné la main d'association à Paul, et ils les ont renvoyés vers Antioche. Donc, les faux frères, les judaïsants, restez dans votre coin, vous êtes dans le champ, c'est ça qu'ils leur ont dit. Et là, c'est intéressant, on arrive à Antioche, verset 11. « Mais lorsque Céphas vint à Antioche, je lui résistais en face parce qu'il était condamnable. En effet, avant la venue de quelques personnes de chez Jacques, il mangeait avec des païens, mais après leur venue, il s'esquiva et se tient à l'écart par crainte des circoncis. » Comme lui, les autres Juifs usèrent aussi de dissimulation, en sorte que Barnabas même fut entraîné par leur hypocrisie. Quand je vis qu'il ne marchait pas droit selon la vérité de l'Évangile, je dis à Céphas, ou Pierre, en présence de tous, « Si toi qui es Juif, tu vis à la manière des païens et non à la manière des Juifs, comment peux-tu forcer les païens à judaïser, ça veut dire à vivre comme les Juifs ou à vivre selon la loi ?» Nous, nous sommes juifs de naissance et non pécheurs d'entre les nations. On va revenir sur ce verset-là. Sachant que l'homme n'est pas justifié par les œuvres de la loi, mais par la foi en Jésus-Christ, nous aussi, nous avons cru en Christ Jésus afin d'être justifiés par la foi en Christ et non par les œuvres de la loi, parce que nul ne sera justifié par les œuvres de la loi. Mais si en cherchant à être justifié par Christ, nous étions nous aussi trouvés pécheurs, Christ serait donc serviteur du péché. Certes non, car si je rebâtis les choses que j'ai détruites, je me constitue moi-même transgresseur. En effet, par la loi moi-même, je suis mort à la loi, afin de vivre pour Dieu. Je suis crucifié avec Christ, et ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Ma vie présente dans la chair, je la vis dans la foi au Fils de Dieu, qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. Je ne rejette pas la grâce de Dieu. Car si la justice s'obtient par la foi, Christ est mort pour rien. on rentre dans la doctrine des judaïsants. L'enseignement des judaïsants qui dit quoi, en gros? Cette situation-là, elle dit quoi, en gros? Que les païens qui ont mis leur foi en Christ doivent se faire circoncire. Pourquoi? Parce que les Juifs sont circoncis. Qu'est-ce qu'ils disent? Les païens, dont nous faisons tous partie ici, là, si nous étions là-bas, ça serait notre tour, doivent se faire circoncire comme le peuple d'Israël, parce que la loi demande ça. Qu'est-ce que les Juifs disent? C'est eux qui ont la vérité, on doit suivre la loi. Tu fais pas partie du peuple de Dieu si t'es pas circoncis, si tu n'observes pas la loi. Qu'est-ce qu'ils disent en réalité? La foi en Christ seul ne suffit pas, donc le sacrifice de Christ n'est pas suffisant. Voyez-vous que c'est l'essence même de l'Évangile. Ils disent que Jésus-Christ n'est pas suffisant. Alors, quand Pierre arrive et commence à faire des manières être hypocrite, c'est pour ça que Paul le reprend. Donc, la doctrine des judaïsants, je vais vous lire la phrase, de Satan, c'est satanique, selon laquelle on peut obtenir la faveur de Dieu par sa propre bonté, ses propres œuvres. Paul les appelle des chiens et des faux circoncis. Mon frère va bien nous lire le verset. Philippiens 3, verset 2. Ce n'est pas que dans cette doctrine-là des judaïsants, n'est pas que dans Galates. On le voit dans Romains, dans Philippiens, on le voit partout. Philippiens chapitre 3, verset 2.
Prenez garde aux chiens, prenez garde aux mauvais ouvriers, prenez garde aux faux circoncis.
OK. On va faire des applications. J'aime beaucoup les applications. Moi, on m'a toujours dit que j'étais quelqu'un de, quand je prêche ou quand j'enseigne, de moraliste. Est-ce qu'aujourd'hui, on peut avoir des faux circoncis, des chiens et des mauvais ouvriers, comme le passage nous dit? Oui! Et on en a. Malheureusement, on en a. Alors, le travail que je fais avec l'association, je confronte. Allez pas dire que Dominique a dit qu'il y a des chiens, puis des faux ouvriers, puis des faux circoncis au Québec, là. Allez pas dire ça, là. OK? J'ai pas dit ça. Mais on doit confronter ceux qui ne gardent pas ce que la parole de Dieu enseigne. C'est pour ça que la jeune génération de l'âge de nos enfants, là, en ce moment, ont un langage, ils disent « vivre l'Évangile ». Pourquoi? Peut-être parce que ma génération ne montre pas qu'on vit l'Évangile. J'ai dit peut-être, j'ai pas dit que c'était ça. Donc, intéressant de voir comme quoi que Paul les confronte. Et dans le verset qui suit, verset 3.
« Car les circoncis, c'est nous qui rendons à Dieu notre culte par l'Esprit de Dieu, que nous glorifions en Jésus-Christ et que nous ne mettons point notre confiance en la chair. »
Les circoncis, c'est nous qui croyons, je rapetisse le verset, qui mettons notre confiance dans les mérites de Jésus-Christ et non dans les mérites de l'homme, de la chair ou des œuvres. C'est ça que ça veut dire. Les circoncis, c'est nous. Nous ne sommes pas ici. Chacun de nous, chaque personne ici qui a accepté Christ comme son sauveur personnel, et nous représentons plusieurs pays ici, plusieurs nations, plusieurs races, plusieurs couleurs, plusieurs langues, et nous ne sommes pas juifs. Alors si on est circoncis, c'est pour d'autres raisons que parce que pour la loi. Nous sommes circoncis de
cœur.
Exact, de cœur. OK? Circoncis de cœur. L'obligation de la loi du judaïser, est un enseignement corrompu. Et quand c'est corrompu, ça vient de Satan. Ils ne reconnaissent pas le Messie, ils ne reconnaissent pas l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde, se pense bon par ses œuvres, donc il ne peut pas reconnaître le tout suffisant sacrifice de Jésus. Moi, je pense, criminel sur la croix à côté de Jésus, qui a reconnu l'innocence de Jésus, toi, t'as rien fait. Pense à moi quand tu rentreras dans ton règne, qu'il a dit. Il a reconnu quoi? La royauté de Dieu, la divinité de Dieu. Qu'est-ce que Jésus lui a dit? Va te faire circoncire. Vous comprenez toute la profondeur de ça? Il a dit non, aujourd'hui même, tu seras avec moi dans le paradis. Je penserais que le centenier, qu'est-ce qu'il a dit le centenier en bas? Assurément, cet homme-là, fils de Dieu, il a reconnu la divinité de Dieu, la filialité avec Dieu. Intéressant de voir. Regardons l'histoire d'Israël. Quel est le, pour ceux qui ont lu l'Ancien Testament, l'histoire d'Israël, quel est le péché qui ressort le plus chez Israël? L'incrédulité. Nous sommes assez bons pour nous débrouiller sans Dieu. Nous sommes, je suis fils d'Abraham. Je suis le peuple choisi. À un tel point qu'on ne consulte même pas Dieu et on se casse le nez. Lisez le livre des juges. C'est la roue qui tourne tout le temps. L'Éternel délivre Israël miraculeusement, envoie un juge rempli du Saint-Esprit pour délivrer Israël, et Israël oublie Dieu, retourne dans son péché, la misère tombe sur le peuple d'Israël et écrit à l'Éternel quand ils sont dans la misère, parce qu'ils ont abandonné l'Éternel. Moïse a un apprenti ou un protégé, un serviteur en formation qui s'appelle Josué. Un homme formidable, Josué. Quand Josué et les gens de sa génération meurent, ceux qui suivaient n'observèrent pas et ne suivirent point l'Éternel. L'orgueil du cœur humain. Mais il y a juste les Juifs qui sont orgueilleux comme ça. Non, mon cœur, ton cœur, c'est pareil. Hein? Et Satan le sait, comme quoi que notre vieille nature là, est là, et puis le péché est attaché à notre vieille nature. Mais c'est pas une excuse pour tomber dans le péché, parce que le Saint-Esprit vit en nous et on est capable d'avoir la victoire sur le péché. Et la réponse à une des questions qui est dans la boîte, si vous avez des questions, la boîte est là. Comment est-ce qu'on peut dire, expliquer à ceux qui nous entourent la liberté en Christ? Ça s'explique difficilement. Pour être libre en Christ, faut reconnaître qu'on a besoin d'être libéré. Et quelqu'un qui ne reconnaît pas son péché, qui n'a pas de problème avec ça, ne reconnaît pas qu'il a besoin d'être libéré. Comprenez ce que je veux dire? Donc, c'est difficile de lui faire comprendre. Avant, j'étais esclave du péché. J'ai compris que j'étais un pécheur. Christ m'a libéré de mon péché. Il a pardonné mon péché. Maintenant, je suis esclave de Jésus-Christ et je sais quand je pêche. Parce que je le pêche dans la lumière. Voyons expliquer ça à quelqu'un qui n'a pas compris la lumière. C'est du chinois.
Oui. Il y a deux choses que je vois. Le témoignage qu'on peut porter pour faire quelque chose, puis l'amour qu'on a les uns pour les autres qui dit « Associez le connaissant que vous êtes mes petits ». Tantôt, quand tu parlais de Josué, même quand Moïse est mort, Dieu a dit à Josué, il a dit « Ne t'ai-je pas donné cet ordre, fortifie-toi, prends courage, ne t'effraie point, ne t'épouvante point, car l'Éternel est avec toi dans tout ce que tu entreprendras. » Pour dire qu'il avait peur.
Quand Dieu parle à Josué, Jésus dit la même chose aux disciples quand il leur dit « Tout pouvoir m'a été conféré dans les cieux, sur la terre et sous la terre. Allez, faites de toutes les nations. Celui qui vous envoie, qui nous envoie, a tout pouvoir. Et nous, on est des mitaines, puis on marche comme si on était dans une armée qui n'a aucun pouvoir. » L'incrédulité est un péché. Et quand Jésus, qui est en train de guérir, je me souviens plus lequel, et puis qui dit, « Si c'est possible de guérir ma fille. » Il dit, « Si c'est possible, peux-tu venir au secours de ma fille? » Puis Jésus répond, « Si c'est possible, rien n'est impossible à Dieu. » Qu'est-ce qu'a dit le gars qui faisait la demande? « Viens au secours de mon incrédulité. » Et ça, je dois prier ça souvent. « Viens au secours de mon incrédulité. J'ai une petite foi. » Viens au secours de ma foi. Et le Seigneur, s'il nous dit qu'il est capable de nous donner de la sagesse, est-ce qu'il va nous donner de la foi?
Oui.
Amen. Ça fait partie du travail de l'Esprit aussi. Il y a des hommes de foi formidables. Il y en a un qu'on voit, c'est des hommes de foi, on dirait qu'ils sont nés avec. Hein. Ils sont tombés, c'est comme Obélix, ils sont tombés dans la soupe de la foi. Hein. Comme moi, je prie au Seigneur, viens au secours de mon incrédulité. Le livre des Hébreux fait tous ses efforts pour persuader que le Messie, le Christ, est supérieur aux prophètes, supérieur aux anges, et même supérieur à le livre des Hébreux. On est dans le livre des Hébreux, là. À la loi, mais qui a amené la loi? Moïse. Même supérieur à Moïse. Il n'est pas un second Moïse. Il n'est pas un ange, il n'est pas un prophète. Il est le Messie. Et le Fils de Dieu, le Sauveur du monde. Intéressant de voir aussi qu'est-ce que les Juifs attendaient comme Messie? Ils attendaient quelqu'un qui allait les délivrer des oppresseurs romains, leur donner l'opulence qu'ils avaient du temps de Salomon, la richesse, le bonheur par les œuvres. Comprenez-vous? Ils n'attendaient pas quelqu'un qui allait les délivrer de l'esclavage, de leur péché. Toute une différence. Est-ce qu'ils avaient compris tout ce qui se passait chaque fois qu'un agneau était mis à mort, que le sang était versé pour leur péché? Non. Le sang était versé pour leur péché. Dans chapitre 2, verset 1 à 10, on l'a vu tout à l'heure, le petit résumé. Et là, au verset 11, Pierre se fait reprendre en face. Mais lorsque Céphas d'Antioche, je lui résistais en face parce qu'il était condamnable. Frères et sœurs, quand on a un frère qui pêche dans sa vie, on lui résiste en face. Pas en parler avec le voisin. Hey, as-tu vu lui, là? C'est grave, ça. Non. Si on voit un péché dans la vie d'un frère, on lui résiste en face. Et j'ai donné déjà l'illustration un dimanche, après un culte, ça fait plusieurs années de ça, il y a un frère qui vient me voir. Il n'y avait presque plus personne ici à l'église, là. Il vient me voir, il dit, Dominique, il dit, j'aimerais ça te parler dans ton bureau. Ben, je dis, OK, pas de problème. Alors, je dis, bon, quel problème il va avoir, là? Bon, comment ça va? Il me dit, pasteur Dominique, je pense pas que c'est une bonne chose pour vous d'avoir une jeune fille assise sur vos genoux. Alors, je réfléchis, une jeune fille assise sur mes genoux. Et ce dimanche-là, notre fille Émilie, qui assistait à une autre assemblée depuis déjà un bon bout de temps, était venue nous visiter, elle était à l'église, et beaucoup de gens ne connaissaient pas Émilie, ou ne reconnaissaient pas Émilie, et on était assis en parlant avec les jeunes, puis Émilie était venue, puis je jasais assis de côté, puis elle était assise sur le genou de papa. Alors je lui ai dit, écoute, c'est ma fille. Ah, elle me dit, je m'excuse. Non, j'ai dit, tu as bien fait. Combien d'autres sont restés avec cette pensée-là et ne m'ont pas confronté en face? Je nous exhorte, frères et sœurs, allez pas voir le pasteur. Allez pas voir Richard, Dominique, Isaac, Johnny et compagnie. Allez lui dire, si telle personne vous voyez dans le péché, vous lui dites avec douceur, amour, en privé. En privé, c'est pas dans la salle ici. Il m'a pris, le monsieur, le frère, il m'a demandé de me rencontrer dans mon bureau en privé, afin que si c'était un péché, si j'avais eu Emeline sur mes genoux, OK, il m'aurait repris, là, tu sais, afin que je puisse me repentir de mon péché en privé. Le but, c'est gagner le frère et non l'humilier, hein. C'est la même chose avec nos enfants. Hein? Donc, intéressant de voir qu'il lui résistait en face. Est-ce que la conduite de Pierre est importante? Oui, c'est ça. Les deux, on dit, les deux, c'est pas juste un leader. Pierre, c'est Pierre. C'est une colonne. C'est l'apôtre des Juifs. Une colonne, un modèle, un témoin. Nommez-moi tout ça. Mais Pierre, par-dessus tout, on voit que c'est un impulsif, un homme, un pécheur. Comme toi, puis comme moi, puis on remarque encore là la peur des autres, la peur des hommes. Quand il a renié Jésus, il avait la chienne, OK, mot québécois, hein, ça veut dire la peur, ça, la chienne. Là. Devant qui? Une servante. C'est devant une servante. C'est une servante qui y a parlé, au point de sacrer, puis il dit, je le connais pas. Peur d'une servante. Écoute, Pierre, il se fait reprendre, et il se fait reprendre solide, Paul, mais il s'est fait reprendre par qui? Hein? Par Jésus lui-même. Comment? Il le regard de Jésus et le coq. Est-ce que ça nous arrive que lorsque nous péchons, mais que Jésus, le Saint-Esprit dans notre vie, nous donne un regard? Est-ce qu'on est différent de Pierre? On est pécheur comme Pierre, hein? Mais Pierre, là, il se fait reprendre publiquement. Oui, Claude. Oui, j'en reviens un peu plus loin de ça. On retient ça, retiens-la, Claude, on va discuter, en parler un peu plus loin, j'espère avoir le temps. Et de toute façon, je redonne la prochaine leçon, si au moins il continue, il faut qu'on continuera, parce qu'après on va voir la justification, on va prendre plus de temps sur la justification. Mais, oui, Pierre est une colonne, il est comme nous, nous aussi on peut pécher, et on peut être repris, mais là il est repris en face. Pourquoi est-ce que Paul reprend Pierre aussi sévèrement? Et il a entraîné d'autres personnes, et on le voit dans le passage qu'on lit, là. Verset 13, « Comme lui, les autres Juifs usèrent aussi de dissimulation, en sorte que même Barnabas fut entraîné par leur hypocrisie. » D'autres Juifs qui, eux, mangeaient avec les païens et ont vu Pierre se tasser, là, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont suivi Pierre. Même Barnabas. Donc, l'importance que chacun de nous, nous sommes des modèles et on doit être de bons modèles. Et on doit admettre, oui, j'ai péché, je vous demandais, confesser à Dieu premièrement, demander pardon pour le péché et reconnaître notre péché. Et Pierre se fait tirer l'oreille sévèrement, sévèrement ce fois-là. Ça aurait pu endommager l'Église. Ils annonçaient un faux évangile, la nécessité de la loi pour les païens, entre guillemets, convertis, et avec Pierre et Barnabas, ils avaient automatiquement l'appui des apôtres devant toute l'Église. Comprenez-vous tout le sérieux de la situation? C'est pour ça que Paul le reprit sévèrement. Mais je pense que Dieu n'a jamais passé de la loi à la foi. Je pense qu'il a toujours passé de la foi à la foi. Quand on lit Hébreux 11, on parle de ceux d'Abraham avant la loi et de ceux qui sont sous la loi et ils ont été justifiés par la loi. Ils ont été justifiés par la foi. Donc même du temps de la loi, que ce soit avant la loi avec Abraham, ou que ce soit du temps de la loi, Dieu regardait au cœur. Et la foi, c'est pas dans les actions extérieures, c'est dans le cœur. Quoique les actions extérieures doivent refléter le cœur. Okay? Est-ce que les actions des Juifs judaïsants reflétaient leur cœur? Oui. Est-ce qu'elle reflétait la foi? C'est pour ça que monsieur, dans le commentaire de John MacArthur, et la plupart des commentaires, étant donné que Paul les appelle des faux frères, il ne les considère pas comme des enfants de Dieu nés de nouveau. Profond, ça. C'est juste des Juifs qui ont trouvé que c'est une bonne affaire. C'est intéressant. La foi est intéressante, mais ils veulent ramener les œuvres aussi à la foi. Est-ce qu'ils ont compris? Oui. Oui. Le prosélytisme des Juifs. Alors, attention. On est sauvé par grâce, par le moyen de la foi, et non par les œuvres. On ne mérite rien. Mais on est sauvé, Éphésiens 2, 8 et 9, pour de bonnes œuvres. Est-ce que, comme enfants de Dieu, il n'y a pas de règlement? On ne doit pas imposer le port. Par exemple, on voit le port du voile. Les cheveux courts, les cheveux longs. Oui, mon frère. C'était dans le témoignage du sœur qui s'est converti ici, qui s'est fait baptiser. Elle venait d'une église avec ses parents beaux et extrêmement étroites. Alors, je dis pas qu'être étroit, c'est pas bon, là. C'est pas ça que je dis du tout. Mais extrêmement étroite. Et elle disait dans son témoignage, comme jeune fille, je ne comprenais pas la relation de la longueur de ma jupe avec le salut. Est-ce que ça veut dire qu'on peut porter les jupes ici, là? Non! C'est pas ça que ça veut dire. Est-ce que ça veut dire qu'on doit porter les jupes à la cheville? Non! C'est pas ça que ça veut dire. Ça veut dire qu'il n'y a pas de relation entre la longueur de sa jupe et le salut. Pas plus qu'il y a de relation entre la longueur des cheveux, la longueur de ci, etc. Vous comprenez ce que je veux dire? Cependant, à cause de la circoncision du cœur, il y a une circoncision dans la conduite aussi. C'est ça la différence. La parole de Dieu nous dit, je ne dois pas être une pierre d'achoppement dans la manière que je me vais pour mon frère ou ma sœur. Je ne dois pas être une pierre d'achoppement, et Paul le dit clairement dans Romains, je ne dois pas être une pierre d'achoppement dans ce que je mange pour mon frère ou ma sœur ou dans ce que je bois. Est-ce que ça veut dire que je peux manger n'importe quoi? Oui, Paul le dit clairement, même les viandes sacrifiées aux idoles. Mais je ne dois pas être une pierre d'achoppement pour quelqu'un qui lui, wow, c'est un problème. C'est comme moi je bois du vin, OK? Bon, j'ai des frères qui viennent chez nous, je les invite à manger. Lui, là, ce gars-là, là, il lutte avec la colle depuis l'adolescence. Je vais lui servir du vin? Je vais manquer d'amour pour lui. Je vais être méchant, comprenez-vous? Même certains frères qui sont un peu plus vieux que moi, qui, eux, sont de la génération avant, et qui était pour les ligues de tempérance, qui n'ont aucun rapport avec la tempérance dans la parole de Dieu, là. Mais comme quoi qu'on ne boit pas d'alcool. Ben, si j'ai des bouteilles de vin sur un petit, je vais les mettre dans un placard. Là, il y en a qui disent, oui, t'es hypocrite. Non. Je ne veux pas être une pierre d'achoppement. Comprenez-vous, c'est ça, la conduite. Hein? Bon. OK, donc, notre ami est bien repris. Et comme on vient de dire, l'Église chrétienne, l'Église en Jésus-Christ, l'Église vraiment de Christ, ne peut être ce qu'elle doit être s'il y a un rituel. On va revenir sur ce mot-là. S'il y a des problèmes avec les races, langues, couleurs, classes sociales, autres distinctions qui séparent ses membres. Il n'y a pas de distinction entre nous. Il n'y a pas de distinction entre hommes et femmes. Il n'y a pas de distinction entre noir et blanc, blanc et noir. Il n'y a pas de distinction entre un chrétien dans l'Église et un des pasteurs. Okay? Nous sommes tous pécheurs pardonnés par grâce. Et c'est ça qu'il faut qu'on pense. Est-ce que ça veut dire que il n'y a pas des rôles différents? Il y a des rôles différents. Dans le mariage, il y a des rôles différents. La distinction n'est pas au niveau de la personne. Puis même encore, est-ce qu'il y a une distinction au niveau des rôles? Pas nécessairement. Il y a des responsabilités au niveau des rôles. C'est très, très différent. Donc, c'est important de voir ça. Si on veut être une Église unie, on ne doit imposer aucune étiquette. Ça ne veut pas dire qu'on ne doit pas reprendre quelqu'un. Au contraire, la faiblesse de l'Église chrétienne évangélique, c'est la non-discipline dans l'Église chrétienne. La faiblesse peut être l'hyper-discipline aussi, là. T'sais? Comprenez ce que je veux dire? Il faut, c'est comme nos enfants, OK? Dans un foyer, vous rentrez dans un foyer, il y a 4 enfants, j'ai toujours dit, vous voulez connaître quelqu'un vraiment, vous allez manger chez lui. Débrouillez-vous, vous faire inviter, vous allez le connaître. OK? Parce que des enfants à la maison, des enfants ici, c'est pas toujours la même chose. Pas toujours la même chose. Ça peut arriver que c'est la même chose. Mais arrivé là-bas, là, puis là, tu rentres là-dedans, là, tu tasses la poussière sur ta chaise, t'asseoir, là, tu sais, là, ou bien les graines, etc. Vous comprenez ce que je veux dire? Bon, il y a quelque chose, là. Mais là, les enfants, ça chamaille, ça se bat. Et là, tu vois, tranquille, les enfants. Mais aucune action, qu'est-ce que tu vas dire?
Il ne sait pas conduire sa maison.
Plus fort.
Il ne sait pas conduire sa maison.
Il ne sait pas conduire sa maison. Il n'y a pas de discipline. Il n'y a pas d'ordre dans la maison. Ça peut être la même chose dans l'Église. Tu arrives là-bas, les enfants, là, tu vois, ils marchent, là, les oreilles collées. Là, tu peux dire qu'il y a peut-être trop de discipline dans la maison. Bon, comprenez? Alors, c'est ça. Attention aux étiquettes imposées par les hommes. OK? Ça ne signifie rien pour Dieu. Alors, Galates 3, on aurait pu aller voir plus le temps, mais le temps avance, je vais avancer un peu. Galates 3, versets 26, 27, 28, vous le lirez. OK? Nous sommes tous appelés fils de Dieu, sans distinction. Nous aurons tous à penser devant le tribunal de Christ. Pas pour notre salut, parce que nous n'avons aucune condamnation en Christ, OK? Mais pour ce qu'on a fait avec. Il va nous demander, bon, ben, regarde, je t'ai donné telle capacité, tel don, tel talent, qu'est-ce que tu as fait avec? Je m'attendais que tu fasses ça. Regarde le plan que j'avais pour toi. J'extrapole, OK, vous comprenez? Puis il va nous dire, hey, tu n'as pas fait ce que je t'ai dit. Je parlais avec quelqu'un tout à l'heure de Moïse. Moïse, de prime abord, est un homme humble ou orgueilleux. Regardez bien, quand il sort, hey, il est fils de la fille de Pharaon. Élevé comme le fils de Pharaon. Écoute, ben, je suis pas n'importe qui. Moi, je suis le fils de Pharaon. Écœurez-moi pas. OK? Puis quand il va voir ceux, il en tue un des deux. Pourquoi il se sauve après? Il a eu peur de Pharaon? Pas convaincu, moi. Qui l'a vu? Un des Juifs. Un des Hébreux l'a vu. Il lui a dit, toi, tu fais comme tu as fait avec l'autre, pour, avec nous autres. Et là, il a pris peur de qui? Du peuple des Hébreux. Pourquoi? Parce qu'il sait que c'est Dieu. Dieu l'a appelé pour une mission. Et là, au lieu de demander pardon à Dieu, de demander pardon de son manque d'humilité, qu'est-ce qu'il fait? Il sauve. Pendant une fin de semaine. 40 ans. Bon, c'est les Hébreux qui le reprennent. Après, c'est les Hébreux qui le reprennent. Mais qu'il ait peur des Juifs ou des Hébreux ou qu'il ait peur de Pharaon. Écoute bien, là, c'est le fils de Pharaon. Il sauve. 40 ans. Et la différence devant le buisson ardent, la différence dans le buisson ardent, c'est que Dieu lui dit, Dieu lui parle, enlève tes souliers, t'es sur un lieu saint. Le buisson brûle, mais ne brûle pas, il se consume pas. Et là, il lui parle, Dieu lui parle, et il lui dit, tu vas être celui qui va être mon envoyé pour faire sortir mon peuple d'Égypte. Que répond Moïse? Moi, je suis pas capable. J'ai la langue épaisse. Je suis pas capable. Qu'a pensé Dieu à ce moment-là? Mais qu'est-ce qu'il a pensé vraiment? Il dit, maintenant, je peux l'utiliser. Il est humble, il s'humilie, il n'est pas capable. Je vais être capable de travailler au travers de lui. L'humilité de Moïse. Et on dit, est-ce qu'on voit un homme humble, Moïse? Hey, travailler avec les Hébreux, ça prend un homme patient et humble en sifflet. On n'aurait pas toffé le quart du temps qu'il a toffé. OK? Un homme, un homme. Il n'y a personne de patient comme Moïse. C'est la parole, c'est Dieu qui dit lui-même. Intéressant de voir. Ça a pris combien de temps? 40 ans. Soyons patients les uns avec les autres. Hein? Ça a pris 40 ans avec Moïse. Pierre savait ce qu'il faisait. Pierre savait le péché qu'il faisait. Pierre savait qu'il était dans le champ. Pourquoi est-ce qu'il savait? Pierre savait comme quoi que il était dans l'erreur en judaïsant et en s'éloignant des païens convertis. Pourquoi il le savait? Pas marqué dans le texte-là. Là. Voilà, juste avant Corneille, Dieu lui a montré, OK, avec la vision de la nappe, avec tous les... lui a montré comme quoi que ne rejette pas ce que Dieu a déclaré pur. Et là, il est appelé par Corneille un païen, un Romain. Et là, il voit que le Saint-Esprit est donné, le salut est donné à Corneille et il est baptisé. Et il le sait, et c'est arrivé d'autres fois. Donc, il n'a pas d'excuse par rapport à ça. Pourtant, il s'évite, il s'esquive, et il se tient à part. Le vieux Pierre, faible, craintif, vacillant, refait surface. Est-ce que ça vous arrive, vous, que le vieux, mettez votre nom, refait surface? Moi aussi, je le sais, je le vis. Par contre, une chose que j'apprécie en vieillissant, je commence... Je vais avoir 65 ans. Ce que j'apprécie en vieillissant, je commence à vraiment comprendre certaines choses. Je commence à comprendre qu'avant de me faire du souci, du tracas, qui m'empêche de dormir dans des situations difficiles, Seigneur, je crie à toi, viens au secours de mon incrédulité. C'est ton église, c'est ton problème, je sais pas quoi dire. Je pars 3 jours, là, lundi, mardi, mercredi. OK? Je m'en vais dans des endroits où il y a des problèmes. Ça ne m'empêche pas de dormir pour 5 cents. Je me rappelle, si je retourne 20, 25 ans en arrière, ça m'aurait tracassé au bout. Pourquoi? Qu'est-ce que je vais faire? Qu'est-ce que je vais dire? Qu'est-ce qu'ils vont penser de moi? Il y a échec? Seigneur, c'est ton problème. Vous comprenez la Je le prends pas, ça me fait mal au cœur, ça m'attriste quand il y a échec dans les relations. Rien faire. Nous autres, je peux pas parler, je peux pas pogner le cœur puis changer, hein. C'est ça. Que pouvons-nous apprendre? Les conséquences de la conduite de Pierre, on les a vues. Il parle même de l'hypocrisie légaliste. Que pouvons-nous apprendre? Même les ministres de l'Évangile, je reviens à ce que Claude a dit tout à l'heure. Même les ministres. Hey, j'ai le mot ministre, OK? OK, mais ministre, c'est pas plus que quelqu'un qui fait qu'un ministère, OK? Mais même les pasteurs, les dirigeants, quels qu'ils soient, OK, peuvent commettre de graves transgressions, des erreurs. Et j'aime le mot transgression parce que une erreur, ben, c'est moins grave qu'une transgression. Une erreur, c'est moins grave qu'un péché. Et lorsque nous demandons pardon au Seigneur, on ne demande pas pardon, Seigneur, pour mes erreurs. On demande, Seigneur, pardon pour mes péchés, mes transgressions. J'en prends là. Une erreur, c'est une erreur. Hein? J'ai pas pris la bonne sortie, j'ai pris la mauvaise sortie sur l'autoroute. C'est pas bien grave, c'est une erreur. Tandis qu'un péché, nous péchons dans la lumière. Je le sais quand je pêche, OK? Donc, les dirigeants doivent être repris, OK, pour les péchés. On doit être fidèle. Être fidèle, c'est plus que croire la bonne doctrine. OK? Être fidèle, c'est plus que croire la bonne doctrine. C'est avoir l'attitude qui témoigne de la bonne doctrine. Je relis la phrase, c'est une bonne phrase. Je la trouve bonne, ma phrase. Être fidèle, c'est plus que croire la bonne doctrine, c'est avoir l'attitude qui témoigne de la bonne doctrine. Quelqu'un qui dit, je suis doux. Okay? Parce que le Seigneur nous demande d'être doux. Je suis doux. Je te l'ai dit que je suis doux. Okay? Donc, il y a l'attitude qui va avec la bonne doctrine. Troisièmement, la vérité est plus importante que la paix et l'harmonie extérieure. OK, on va. Pas de compromis doctrinal. Il n'y a pas de place pour des compromis sur ce que le Seigneur nous enseigne. Attention, cependant. Quand est-ce que le Seigneur va revenir? Bientôt. En son temps. Comme un voleur dans la nuit. Voilà, tout ce qu'on vient de dire, là, c'est la parole de Dieu nous dit, utilise ces mots-là. Il nous a pas dit qu'il viendrait dans l'amillénariste, dans le prémillénariste, dans le prémillhistorique. Vous comprenez ce que je veux dire? Tous ces titres-là qui ont été donnés par rapport au retour de Jésus-Christ, la seule chose qui est la doctrine, c'est que Jésus, il va revenir pour nous prendre avec lui et juger les nations avec douceur, avec une verge de fer. Ça, c'est ça la doctrine. Alors, quand je parle de doctrine, je ne parle pas de choses qui sont... Jésus a dit, quand on lui a posé, « Quand est-ce que tu reviens? » Je ne sais pas, le Père seul le sait. Si lui ne sait pas, là, moi non plus, je ne sais pas. Mais il revient. Et il revient glorieusement. Et ça, c'est doit être enseigné. Mais comment il revient? Qu'on prêche, qu'on enseigne les différentes positions de différents groupes évangéliques, j'ai pas de problème. Mais qu'on en fasse une doctrine obligatoire dans l'Église, dans notre confession de foi. Ici, dans l'Église de Rosemont, on est amillénariste. Si tu veux être membre de l'Église, il faut que tu sois amillénariste. Ça, c'est ajouter un rituel à l'Église qui n'est pas ce que la parole de Dieu enseigne. Et j'ai rien contre les amillénaristes, hein? Correct? Allez pas dire ça, là. Mais ni contre les prémilles non plus. Hein. OK, donc la vérité est plus importante que la paix et l'harmonie extérieure. Paul n'a pas craint de confronter en face, à la fois Céphas, Pierre, Barnabas aussi, et les autres juifs, qui eux aussi ont shaké, ont eu peur, puis ont fait les moutons, puis ont suivi Pierre et Barnabas. L'éthique n'est pas toujours bonne conseillère. Je répète, l'éthique n'est pas toujours bonne conseillère. Par éthique, je vais vous parler d'éthique, dans les pays africains, haïtiens, en Haïti, en Europe, beaucoup de pays, de vieux pays, quand vous êtes pasteur, on vous appelle pasteur. Vous êtes un grade plus élevé, c'est une éthique. Pasteur. Comprenez-vous ce que je veux dire? Ça, c'est de l'éthique. Je ne dis pas que ce n'est pas correct, mais la parole de Dieu ne fait pas de différence par rapport à la discipline et être fidèle à la parole de Dieu entre un chrétien né de nouveau et un pasteur né de nouveau. Comprenez-vous? Les deux doivent répondre aux mêmes critères qui sont la parole de Dieu. Et même, Paul parle clairement à Timothée, si tu dois reprendre un leader, reprends-le. Comme un père, mais un leader, tu dois le reprendre publiquement. Pourquoi? Il y a un ministère public. Donc, il doit être repris public. Pourquoi? Parce qu'il est, comme Pierre, un modèle. On regardait à l'église d'Antioche, et tous les nouveaux chrétiens. Hey, on regarde Pierre, et wow! Hey, c'est Pierre! Hein? Il y a même certaines personnes qui auraient dit, hey, oh Pierre, est-ce que je peux le toucher? J'exagère à peine. Remarquez qu'il ne nous reste rien des apôtres. Pas de manteau, pas de chaussures. Même si le Saint-Suaire, ils disent que c'est le Saint-Suaire, il n'est pas plus saint qu'autre chose. C'est une vulgaire création humaine, tout ça, là. Il ne reste rien. Pas un morceau de bois de la croix. Vous comprenez ce que je veux dire? Ils savent même pas exactement où a été plantée la croix. Ils nous disent ça, c'est le tombeau de Jésus. Ils savent pas. Dieu n'a pas permis cela et il n'a même pas permis que le tabernacle, le temple, reste là, à Jérusalem. Pourquoi? Parce que nous aimons toucher. Mais Dieu veut que tout soit fait par la foi. Pas toucher, la foi. OK, donc ça c'était l'éthique. Dernière chose, dernier point. Il faut se soucier du mal quand celui-ci attaque le cœur de l'Évangile. Si le cœur de l'Évangile est attaqué, on doit se soucier de l'attaque de l'Évangile. Soyons des hommes et des femmes qui sont attachés à l'Évangile, attachés au message de l'Évangile. La semaine prochaine, nous verrons l'affirmation de Paul. Dans deux semaines, OK, merci, c'est bien. Dans deux semaines, la semaine prochaine, c'est le 9 et 7, 16, donc le 16, nous verrons la justification par la foi en Christ sans les bonnes œuvres, une affirmation de Paul et sa défense et cette affirmation. Et le verset superbe que nous avons dans notre passage de ce matin, c'est le verset 20. Chapitre 2, verset 20. « Je suis crucifié avec Christ. » Et on le développera un petit peu dans deux semaines. « Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Ma vie présente dans la chair, je la vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé, qui s'est livré lui-même pour moi. » Toute la signification de cela, c'est que quand un condamné à mort pour un crime est condamné et tué, il a payé pour son crime. Il n'est plus coupable. Il a payé pour son crime. Christ est mort pour celui qui l'a accepté par la foi. Donc, Christ a payé pour mon crime, pour ton crime. Donc, tu n'es plus coupable. Amen. Bonne semaine. Bon culte.